Débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Igemandard Tomté. Le débat.
Bonjour à vous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau débat BBC Africa Radio. Trois sujets d'actualité africaine au menu. La présidentielle ivoirienne est-elle menacée après l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition? Les opposants dénoncent toujours la candidature du président sortant Alassane Ouattara qu'ils jugent anticonstitutionnelle. Le camp de ce dernier réplique que c'est la peur qui pousse les opposants à créer une tension artificielle, selon les mots du porte-parole adjoint du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. C'est l'escalade verbale des deux côtés. La situation de plus en plus délétère a occasionné le déplacement à Abidjan du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chamas. Au Mali, il est officiellement le président de la transition malienne depuis ce vendredi. Quelle feuille de route pour Mba Ndao, surnommé Le Grand, l'officier à la retraite, s'est déclaré prêt à tout pour que le Mali renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec les autorités élues, des représentants légitimes. Secondé par un vice-président militaire, Assimi Goïta, le désormais ex-chef de la junte, le nouveau président malien devra trouver le juste milieu entre la volonté des Maliens, pas toujours unanime, et la nécessité de rétablir les relations entre son pays et la CEDEAO. La CEDEAO, nous venons de l'apprendre juste avant d'entrer dans ce studio, qui a décidé de maintenir les sanctions du Mali, les sanctions contre le Mali jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre civil. Et puis en Guinée, le processus électoral fait-il face à une nouvelle controverse après la publication des résultats de l'audit du fichier électoral par la CEDEAO? Plus de 2 400 électeurs ont été radiés des listes pour diverses raisons, selon les experts de la CEDEAO. Cela n'a pas suffi pour apaiser les divergences entre les acteurs politiques. L'opposition guinéenne se dit déçue de ne pas avoir été impliquée dans le travail accompli sur le fichier électoral. La mouvance, quant à elle, est satisfaite du travail. La campagne électorale gagne en intensité et les propos des deux principaux candidats, Alpha Condé et Sélou Dalein Diallo, se font de plus en plus guerriers. Le débat d'aujourd'hui reçoit comme grand témoin Sidi Thiemoko Touré, ministre ivoirien de la communication et des médias, également porte-parole du gouvernement ivoirien. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Nous aurons également avec nous depuis Conakry en Guinée, Azoka Ba, rédacteur en chef de Lynx FM et administrateur du site d'information www.guinédirect.org. Bonjour Azoka Ba.
Bonjour.
Et nous devrions être rejoints au cours du débat par Alexis Calombri, directeur de publication du quotidien Mali Tribune, qui sera en direct de Bamako pour évoquer l'actualité malienne. Petite présentation plus exhaustive, on va dire, de notre grand invité, de notre grand témoin du jour, le ministre Sidi Thiemoko Touré. Vous êtes donc ministre de la communication et des médias depuis juillet 2018 à septembre 2019. Vous avez été reconduit à ce poste et vous occupez également, vous êtes également porte-parole du gouvernement depuis ce 4 septembre 2019. Mais avant, vous avez occupé, dirigé le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et des jeunes du service civique. C'était de janvier 2016 à juillet 2018. Autre poste que nous pourrions citer dans votre cursus, dans votre parcours, monsieur le ministre, de 2006 à 2010, vous avez été chef de cabinet du président du RDR, l'actuel président ivoirien, monsieur Alassane Ouattara. Et puis, vous êtes également auteur de l'ouvrage intitulé « Alassane Ouattara et les jeunes, le temps des possibles ». Est-ce que ces quelques points, monsieur le ministre, vous reconnaissez?
Oh oui, tout à fait. Et faut juste compléter que après la posture de chef de cabinet du président du RDR en son temps, je fus chef de cabinet à la présidence de la République, aux côtés du président de la République.
Très bien.
Avant de devenir ministre.
Avant de devenir ministre. Vous êtes donc aux côtés du président Alassane Ouattara depuis de nombreuses années. En Côte d'Ivoire, les opposants n'en démordent pas. La candidature du président Alassane Ouattara au scrutin du 31 octobre prochain est une forfaiture, selon leurs mots. Sans détailler leurs actions, deux des candidats et d'autres opposants ont appelé à la désobéissance civile. Kwadio Conan-Bertin dit Kakabé, le quatrième candidat retenu par le Conseil constitutionnel, a quant à lui déclaré qu'il ne participerait pas à ce qui divise la Côte d'Ivoire et qu'il ne cautionne pas ce genre d'aventure. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a raison de parler de menace sur la présidentielle du 31 octobre prochain?
Aucunement, parce que le gouvernement travaille à ce que ces élections se tiennent dans le délai. C'est un délai qui est constitutionnel, c'est-à-dire inscrit dans la constitution ivoirienne qui date de 2016, qui mentionne en des termes un peu plus clairs que le dernier week-end du mois d'octobre et suivant la fin du mandat, les élections doivent avoir lieu. La mission du gouvernement est de mettre tout en œuvre pour que ces élections se tiennent dans le délai.
Alors, le fait que l'opposition ait deux candidats à la présidentielle, en l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, Henri Conan-Bédié et Pascal Afinguessan, appelle à la désobéissance civile, pour vous, ce n'est pas une menace sur le scrutin?
Aucunement, parce que les Ivoiriens, dans leur majorité, aspirent à la paix et à la stabilité. Je suis convaincu qu'ils ne voudront nullement s'engager dans ce projet qui n'apporte aucune valeur ajoutée à leur quotidien. Et le gouvernement, pour sa part, reste engagé à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Mais, monsieur
et,
le ministre, on parle tantôt, quand même de Henri Conan-Bédié et on parle de Pascal Afinguessan, deux des leaders de l'opposition. On sait ce qu'ils ont comme militants et partisans derrière eux.
Ben, cette analyse que vous faites est une analyse qui, je dirais, si vous me permettez, reste foreclose dans la mesure où vous appréciez ces différentes personnalités à la lumière de ce qu'il fut en termes de potentialité il y a quelques années lorsque nous étions en compétition en 2010 ou en 2015. Donc ces partis politiques ne sont plus ce qu'ils étaient en 2020 en tout cas.
Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Que ce ne sont pas des concurrents pour vous, ce ne sont pas des challengers à votre hauteur?
Non, ce sont des concurrents, ce sont des challengers. Ce ne serait pas approprié de ne pas les prendre à leur juste valeur. Ce que je suis en train de dire, c'est que le FPI de 2010 n'est pas le FPI de 2020. Si nous prenons le FPI, vous constaterez que c'est un parti qui part divisé du fait des deux tendances qui les divisent. La partie Laurent Gbagbo et la partie Afinguessan. Si vous prenez le PDCI de 2010, ce n'est pas le PDCI de 2020 dans la mesure où vous constaterez que l'essentiel de la force vive dynamique de ce parti se retrouve dans le RHDP avec lequel le PDCI était en coalition il y a encore quelques années.
Alors, si le parti, l'aile FPI qui soutient encore Laurent Gbagbo se prononçait également en faveur de cette désobéissance civile, est-ce que cela vous ferait plus trembler?
Je vous ramènerai beaucoup plus à la réalité du terrain. Cette annonce de désobéissance civile a été faite il y a de cela bientôt plus d'une semaine. Nous constatons que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations.
Mais ils n'ont pas encore défini les actions qui doivent être menées dans le cadre de cette désobéissance. Il n'y a pas eu d'appel à la manifestation pour l'instant.
Mais bon, c'est ce que je disais tantôt dans mon intervention tout à fait au début. Les Ivoiriens refuseront à tous les coups de s'engager dans une aventure qui leur rappellera tristement les malheureux événements que la Côte d'Ivoire a connus en 2010. Les Ivoiriens sont assez réalistes sur ce qu'ils attendent de leurs hommes politiques ou ce qu'ils peuvent espérer de leurs hommes politiques. Et puis, il faut relativiser les choses en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un environnement pré-électoral. Et il est tout à fait naturel que dans le jeu démocratique des débats, les voix se fassent un peu plus haut que d'habitude. Mais cela ne veut pas dire pour autant.
Vous voulez dire que pour vous, ce n'est qu'un jeu, politique, électoral. Sincèrement, vous ne prenez pas au sérieux ce qui a été lancé comme appel par l'opposition?
Non, ce que je dis, c'est que cela participe du débat démocratique à l'ivoirienne à l'approche des élections et des échéances politiques. Et donc, nous ne leur donnons pas plus de valeur que cela, je suppose. Et je présume que toutes ces personnalités qui ont pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire sauront savoir les limites à ne pas dépasser. Et c'est pour cela que ce débat pourra avoir lieu autant que possible tant que nous ne dépassons pas les limites. Mais le gouvernement vraiment dans sa posture reste garante à ce que tout cela n'aboutisse pas à quelques effritements de la cohésion et de la sécurité et même de la paix en Côte d'Ivoire.
Alors, on a appris la libération de quelques proches de Guillaume Soro. Est-ce que justement cela fait partie de votre stratégie pour que ces élections se tiennent à bonne date? Est-ce que c'est un geste d'apaisement de la part du gouvernement?
C'est une décision dont le fondement est purement juridique et non politique. Donc, je pense.
Mais elle tombe. Mais c'est quand même c'est un geste qui tombe à bon point pour vous.
Mais c'est un geste qui relève de l'initiative discrétionnaire du pouvoir judiciaire. Donc, il n'y a pas, le politique n'a pas ou l'exécutif n'a pas d'influence de quelque manière que ce soit sur le judiciaire. Et la prérogative de la mise en prison ou de la libération de personnalité relève exclusivement du pouvoir judiciaire.
Azokamba.
Vous
avez suivi le ministre Tiémoko Touré très serein face à cet appel à la désobéissance lancé par l'opposition. Est-ce que c'est une posture que vous comprenez, cette sérénité du ministre?
Oui, je pense que en Afrique de l'Ouest, presque nous sommes confrontés au même comportement des hommes qui dirigent. Je pense que quand le ministre s'exprime ainsi, il faut le comprendre parce qu'il défend un système, il défend un gouvernement. Sinon, il ne faut pas négliger quand même la force de cette opposition ivoirienne. Aujourd'hui, à sa tête, l'ancien président Bédier, il faut ajouter à cela Pascal Afingessan, qui n'est pas aussi à négliger, même si le ministre a tendance à faire comprendre que Il y a cette division qui affaiblit le FPI de Laurent Gbagbo, mais il ne faut pas oublier aussi que derrière ces deux opposants, si on peut les considérer comme les plus farouches à Alassane Ouattara, il y a aussi Guillaume Soro, même s'il n'est pas candidat, il a aussi un grand rôle à jouer. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui tout ce qu'il est en train de faire au niveau international à travers les médias. Étant à Paris, il essaie autant que faire se peut d'avoir une influence sur ce qui se passe. Je pense que la situation ivoirienne rappelle un peu, on reviendra tout à l'heure.
Oui, on va évoquer l'actualité guinéenne tout à l'heure. Voilà. Azoka, je vais demander au ministre, justement, vous évoquiez tout à l'heure Guillaume Soro, désormais opposant au président Alassane Ouattara, lui qui était hier un allié du président Ouattara. Monsieur le ministre Touré, cela ne vous inquiète pas non plus, le fait que Guillaume Soro dise qu'il n'y aura pas élection le 31 octobre, si les cartes ne sont pas rebattues, si lui n'est pas candidat, cela ne vous inquiète pas non plus?
J'aimerais déjà, vous le connaissez, M. Guillaume Soro fut président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire et c'est assez surprenant que venant de la bouche d'une personnalité qui a occupé ce rang, il puisse tenir des propos de cette gravité. Aujourd'hui, il n'en a ni la qualité, ni la capacité à pouvoir interdire ou obstruer le déroulement du processus électoral. Et donc, vous me donnez l'occasion, je l'ai dit à d'autres opportunités, je dis, il faut que M. Guillaume Soro redescende sur terre. La Côte d'Ivoire ne vit pas au rythme de sa personne. En tout cas, pour ce qui nous concerne, les élections présidentielles du 31 octobre auront lieu dans le cadre prévu, dans le délai prévu, et seront encadrées comme il le faut.
Monsieur le ministre, vous revenez sur ce délai constitutionnel. Selon vous, il faut tenir la date, quitte à ce que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation post-électorale délicate? Vous êtes prêt à aller jusqu'à cette extrémité?
Non, il ne s'agit pas d'aller jusqu'à une certaine extrémité. Vous voyez, la problématique de l'exercice démocratique en Afrique, c'est justement ce que nous sommes en train de déplorer, ce que vous décrivez par ailleurs. Si nous sommes tous démocrates dans l'âme, comme nous souhaiterions, comme les uns et les autres l'affirment sur toutes les tribunes, il faudrait qu'ils acceptent de donner l'opportunité au peuple souverain ivoirien de trancher définitivement le litige, entre guillemets, politique qui existe entre les différentes classes. Le drame de la Côte d'Ivoire, c'est que d'exception en exception, nous sommes allés sans véritablement à aucun moment donner l'occasion à l'exercice de la démocratie se faire comme il faut. Définitivement, ce sont les instruments de la démocratie qui doivent être opérationnels.
Mais quand ces instruments sont remis en cause par des acteurs politiques lors d'une élection?
Je vous rappelle que ces instruments ont fait l'objet d'une concertation depuis déjà plusieurs mois, justement dans la perspective de la tenue de ces différentes élections. Il a été convié autour d'une table par l'ex-premier ministre Personam, tous les différents acteurs de la société civile et même des partis politique de l'opposition. Tous ont convenu de ce que devait être le code électoral qui est aujourd'hui opérationnel. Et même une des dispositions nouvelles qui apparaît dans ce code électoral, c'est le parrainage qui a été une proposition de l'opposition.
Mais qui est aujourd'hui aussi décriée par les opposants.
Proposition de l'opposition. Ce n'est pas une proposition de la partie gouvernementale. Proposition de l'opposition qui a été intégrée. Donc, c'est dire que c'est véritablement ça l'exercice de la démocratie. La démocratie voudrait que quand nous tombions d'accord sur quelque chose, que cela soit en notre faveur ou en notre défaveur, mais à partir du moment où le débat a eu lieu, qu'on puisse passer à une autre étape. Il n'y a pas d'imposition de quelque chose dans un exercice démocratique. Il y a tout simplement le fait d'accepter que notre avis peut souvent ne pas être pris en compte ou ne pas être tranché par rapport à l'évolution du processus. C'est ça aussi, être démocrate sur le bout des ongles.
Nous avons été rejoints dans le débat par Alexis Calambry. Alexis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur de publication du quotidien Mali Tribune et vous intervenez depuis Bamako. Vous avez suivi un peu le ministre. Première réaction sur cette actualité ivoirienne?
Oui, vous savez, il y a deux choses. On doit se battre pour la démocratie. Et moi, je ne comprends pas quand on aspire à diriger, à prendre la place de ceux qui sont là, il y a des extrémités qu'on ne franchit pas. L'appel à la désobéissance civile, dans sa plénitude, ça amène à la désorganisation de l'État. Alors, est-ce qu'on est prêt à monter sur des cadavres pour atteindre le perchoir? Ça, c'est la question. De l'autre côté, que chacun accepte de donner la chance. Oui, moi, je déplore le fait qu'on ne permette pas à Soro d'être candidat, par exemple, mais je ne vois pas un bélier en donneur de leçons alors qu'il n'est pas un modèle et il n'a vraiment pas été, il n'a rien fait qui puisse rester dans les mémoires ou il n'a jamais été un modèle en soi. Il y a un faux débat en Côte d'Ivoire. Le faux débat, c'est tous ceux qui ont été récalés, qui pensent que de bon droit, ils devaient être candidats. Pour moi, il y a la justice. Que quand on aspire à diriger, on fait confiance à la justice, on prend date pour l'avenir.
Mais les opposants disent que cette justice n'est plus libre, n'est plus indépendante.
Ça, c'est une raison de plus pour faire confiance à la justice. J'aspire. L'opinion est toujours le témoin et qu'on fasse confiance à l'opinion pour être le témoin, pour être le juge suprême. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous dites ce que vous reprochez à la justice, vous êtes là, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas qu'on dise quand on gagne, la justice est indépendante, quand on perd, la justice est aux ordres. Premièrement, et deuxièmement, en matière politique, oui, il y a des choses qui sont bien, en ce sens que quand vous êtes sanctionné, ça devait amener l'éveil de conscience, de sorte qu'au jour où vous serez là, que vous travaillez à ce que cette justice ne soit plus aux ordres, mais ce n'est jamais le cas.
Merci beaucoup, Alexis. Je vais vous interrompre pour quelques secondes. Nous allons prendre une pause et nous revenons juste après pour la suite du débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ige Mandar-Tonté. Le débat.
Et avec grand témoin aujourd'hui, Sidi Thiemoko Touré, ministre ivoirien de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Les analyses et les commentaires de nos confrères également, Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien Mali Tribune. Depuis Bamako, il intervient. Et Azoka Ba, rédacteur en chef de Links FM et administrateur du site d'information www.guinédirect.org. Monsieur, nous allons poursuivre ce débat avec toujours la Côte d'Ivoire. Et je reviens à vous, monsieur le ministre. L'opposition vous reproche d'avoir instrumentalisé la justice ivoirienne, surtout le Conseil constitutionnel. Or, c'est l'instance qui doit valider les résultats finaux de l'élection. N'est-ce pas une menace également sur ce scrutin?
J'aimerais emboîter mon analyse à celui de votre confrère tout à l'heure pour dire que justement, c'est quand les décisions nous arrangent, on ne préteste pas de l'inféodation de la justice, mais quand ça ne nous arrange pas, on commence à crier au loup. Et aussi, rappeler une chose, la posture de politiciens ne nous exonère pas du fait que chacun des politiciens, quel que soit leur grade ou leur niveau, reste quand même injusticiable vis-à-vis de la loi. Et le Conseil constitutionnel a donné une décision en pleine connaissance de cause et en essayant tant bien que mal d'en faire la justification. Je ne suis pas juriste, je constate et j'ai pris acte. Nous avons pris acte pour ce qui concerne l'arbitrage qui a été fait par le Conseil constitutionnel relativement au dossier du candidat Alassane Ouattara et l'arbitrage qui a été fait par rapport aux autres dossiers. Nous n'avons pas de commentaires à faire.
Mais alors, si les opposants ne reconnaissent pas ce Conseil constitutionnel, même ceux qui sont actuellement retenus par le Conseil constitutionnel, le candidat Afin Guessant, par exemple, l'a dit, lui qui est candidat, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait justement un conflit post-électoral?
Bon, vous relatez ici ce qui est de la réalité malheureusement sociale ou politique dans nos différents pays. Quand les décisions sont prises, ça ne nous arrange pas, ou bien quand on se projette dans nos stratégies par rapport à la perspective du déroulement de l'élection quand on est retenu et qu'on voit qu'on a pas énormément de chances de pouvoir gagner cette élection, on se met dans la réserve. Et c'est celle-là qui est constatée dans la position de M. Afin Guessant. Nous pensons que le meilleur arbitre de tout ça, au final, c'est le peuple ivoirien. L'opposition est libre de se coaliser pour battre M. Alassane Ouattara dans les urnes si cette opposition pense que tout cela n'est pas légitime.
Mais monsieur le ministre, on se retrouve dans un scénario que vous-même, votre candidat, le président actuel, a aussi utilisé. Quand le Conseil constitutionnel avait déclaré M. Gbagbo élu, il y a eu une contestation de cet organe-là par votre candidat et le Conseil est revenu sur sa décision. Est-ce que ce n'est pas le retour du bâton?
Aller pousser encore plus loin l'analyse, il y a de cela quelques années, quand M. Henri Conan-Bédier était encore à la présidence de la République, le Conseil constitutionnel avait déclaré inéligible le président Alassane Ouattara. Ce dernier s'est soumis à cette décision et a fait le parcours politique de 14 ans avant d'arriver à la magistrature suprême. C'est ça aussi être démocrate, accepté les décisions de nos institutions. Sinon, comme vous le dites, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'avance pas. Donc, laissons les instruments mis en place jouer leur rôle, donnons leur le crédit de faire l'expérience, la preuve de leur régularité, du fait qu'on puisse leur faire confiance. On ne peut pas présumer de quelles décisions ces différents instruments qui dirigent notre État vont donner comme décision. Laissons-leur la chance de faire l'expérience.
Alors, au-delà de la sérénité, on sent en vous, monsieur le ministre, de la détermination, une détermination qu'on retrouve aussi dans le camp de vos adversaires. Est-ce que l'affrontement et les troubles ne semblent pas inévitables dans ces postures que vous adoptez des deux côtés?
Bon, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des troubles? Il n'y a pas de raison qu'il y ait des troubles. Je vous l'ai dit encore une fois, il faut dédramatiser les choses. Souvent, c'est nous, les journalistes, qui amplifions, peut-être par besoin de scoop, des situations qui sont ordinaires en période électorale.
Vous faites le procès des journalistes. Déjà, nous ne faisons que relater et ce que vous vous dites. Ce n'est pas nous qui disons, c'est vous, hommes politiques, qui dites, monsieur le ministre.
Oui, je le conçois, mais je l'entends aussi. Mais il faut que les choses soient dédramatisées à l'image de ce que ces choses sont en réalité. Je le répète encore une fois, nous sommes en période électorale. C'est pas une période ordinaire où les mots sont les plus justes à leur niveau. Nous sommes dans une période électorale où les mots sont plus hauts que les autres.
Azoka? Oui, est-ce nous les médias qui amplifions ce qui ne l'est pas en Côte d'Ivoire, comme le dit le ministre?
Non, je ne pense pas. Je pense que le ministre, il le sait lui-même que les médias, nous, c'est les faits. Nous ne faisons que traiter les faits, rien que les faits. Et les commentaires que nous faisons sont tout à fait libres, mais on n'invente pas. Ce n'est pas les médias qui... disent qui ont fait que sur une quarantaine de candidats, on n'a retenu que 4, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et si ça s'est fait, nous ne pouvons que relayer cela en tant que journaliste. Je comprends aussi que le ministre dise de respecter ce que les institutions disent, mais est-ce que ces institutions, est-ce qu'elles sont indépendantes des pouvoirs dirigeants en Afrique? C'est une question qui se pose et qui est toujours à poser. Quand on regarde un peu partout à travers le continent, ces cours constitutionnelles, elles constituent parfois l'essentiel des problèmes, parce que tous les problèmes qui parviennent après les élections, c'est parce que soit ces cours constitutionnelles ont déclaré des résultats qui ne sont parfois pas conformes à ce qui a été dit, ou ils ont écarté des candidats, et souvent, ces candidats qui sont écartés d'une élection sont capables après de revenir en force ou en tout cas de jouer un jeu qui pourrait contribuer au trouble. Nous, en tant que journalistes, nous observons, nous regardons ce qui se passe, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, un peu partout à travers le monde. Les médias relaient les faits. Rien que les faits.
Faits, Azoka, si vous permettez, parlons des faits, monsieur le ministre. Le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qui est un organisme public, s'inquiète des graves menaces sur la paix sociale. Il a appelé à un dialogue inclusif. Votre réaction?
Merci beaucoup. Relativement aux différentes institutions, l'indépendance des différentes institutions, je ne peux pas présumer du comportement des institutions dans les autres pays. Certes, l'histoire est là pour nous enseigner de ce qui a été, mais pour ce qui concerne les institutions en Côte d'Ivoire, nous l'avons relayé, donnons-leur la chance de faire la preuve de leur indépendance. Donc,
Continuons, monsieur le ministre, sur l'inquiétude émise par le Conseil national des droits de l'homme.
C'est tout à fait légitime, d'ailleurs, que le Conseil national des droits de l'homme s'inquiète. Nous les avons entendus, comme tout le monde d'ailleurs. Et donc, c'est un appel à l'ensemble de la classe politique pour leur faire comprendre, attention, il y a un haut là, il ne faut pas dépasser une ligne dans les envolées au niveau verbal, dans le débat politique. Et c'est tout à fait légitime. Le contraire nous aurait surpris, madame.
Est-ce que vous seriez favorable pour que ces élections soient supervisées par l'ONU, par exemple, ou l'implication d'autres institutions?
Pour quelle cause?
Mais pour apaiser, pour éviter une éventuelle crise post-électorale.
Madame, nous n'avons pas de crise institutionnelle en Côte d'Ivoire. Nos instruments de gestion au niveau national fonctionnent très bien. C'est à partir du moment où il y a une crise particulière sur le fonctionnement des institutions que nous pouvons faire appel à l'extérieur. Donc, la commission électorale fonctionne très bien, le conseil constitutionnel fonctionne très bien et tous les instruments fonctionnent très bien.
Pas besoin de l'extérieur, alors. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur. Mais est-ce que vous seriez favorable pour un report?
Mais par contre, nous acceptons les conseils de nos différents partenaires, parce que ce sont des partenaires, que ce soit l'ONU ou d'autres institutions venant de l'ESS, ce sont des partenaires.
Et si les partenaires vous demandent de reporter le scrutin pour qu'il soit plus, on va dire, qu'il soit accepté par tous, si les partenaires vous demandaient de le reporter?
Ceci n'est que spéculation. Ils sont tous venus, ils ont entendu, ils ont vu. Aucun d'eux n'a demandé de report.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Sidi Thiemoko Touré, ministre ivoirien de la Communication. Nous vous gardons en ligne pour la suite du débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
En Guinée, les partis d'opposition ne sont pas satisfaits des résultats de l'audit de la CEDEAO sur le fichier électoral. L'UFDG de Sélou d'Alain Diallo a dénoncé un travail solitaire de l'institution sous-régionale. Le parti d'Alpha Condé, par contre, s'est félicité des résultats de l'audit qui ont permis de radier 2 400 électeurs pour diverses raisons. Le fichier électoral guinéen est débarrassé de toutes les anomalies rencontrées au regard du code électoral et est de qualité suffisante pour les prochaines élections. Ce sont les mots des experts de la CEDEAO. Azoka?
Oui, je suis à l'écoute.
Alors, vous êtes à Conakry. Dites-nous, qu'est-ce qui pose problème dans le travail d'audit effectué par la CEDEAO?
Voilà, merci. En fait, ce qui pose problème, c'est surtout une répartition régionale de ces électeurs. Le lundi 14 septembre, la CENI avait rendu public ce corps électoral constitué de 5 400 000 et quelques. Mais dans cette répartition régionale, il ressort que la région de Kankan, qui est supposée être le fief du président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, représente quelque 22% de ce corps électoral guinéen. C'est ce que l'opposition et une frange importante de la société civile a critiqué parce que si on compare aujourd'hui en termes, en tout cas rapport avec la population qui est là à Conakry, et on regarde la population qui est à Kankan, on constate énormément que la capitale Conakry a quelque chose de plus de 3 millions. Comment elle peut se retrouver avec 1 million d'électeurs alors que on voit que Kankan, qui n'est pas assez peuplé, a plus d'électeurs que Conakry. Quand on va au-delà de Kankan, une zone, une ville comme Mandiana, qui n'avait que quelques 100 000 habitants, se retrouve avec un électorat très élevé. Et ce sont des zones quand même qu'on suppose et qui ont toujours...
Mais le RPG arc-en-ciel avance le fait que l'audit du fichier électoral a été fait sur la demande des opposants.
Effectivement, en fait, aujourd'hui, ce que les opposants contestent, c'est un peu cette disparité régionale. Sinon,
alors c'est parce que les résultats ne leur conviennent pas qu'ils contestent le travail qui a été fait. En plus clair,
voilà,
c'est cela.
Oui, parce que pour eux, c'est que les auditeurs auraient dû d'abord les impliquer en tant qu'opposants dans le processus, avoir des termes de référence. Et puis, il y a une étape importante qui n'a pas été respectée en matière d'affichage des listes électorales. On n'a pas affiché. Les listes n'ont pas été affichées avant la distribution des cartes d'électeurs. Dans les conditions normales, on affiche les listes, les électeurs viennent, chacun vient, il vérifie qu'il a été effectivement...
Mais alors, pourquoi ils n'ont pas contesté le processus bien avant la publication de ces résultats?
Bon, je pense qu'il y a longtemps, l'affaire du fichier électoral guinéen remonte à 2010.
C'est un très long dossier.
Voilà, très long. Depuis 2010, déjà, le second tour a été retardé parce qu'il y avait des contestations du candidat Alpha Condé sur l'utilisation des cartes alpha numériques, l'utilisation de doublons, de triplons. C'est le même problème auquel on s'est retrouvé en 2013 lorsque l'opposition contestait contre l'opérateur Ruemark et Sabari Technologies à l'occasion des élections législatives. Et puis malgré tout, on est allé avec ce fichier à ces élections législatives. On est allé avec le même fichier en 2015 l'opposition a continué à contester jusqu'en 2018, puisqu'il y a eu des élections législatives. Ils ont dit, bon, puisque au moins on a un fichier qui est plus ou moins acceptable, on va avec aux élections communales. Et puis est venue cette idée du double référendum de 22 mars dernier. Vous savez 2020, que ouais. C'est en ce moment que l'OIF
s'est retiré du processus électoral, effectivement.
Voilà,
nous allons prendre l'avis de Alexis Azoka. Nous allons permettre à Alexis Calambri depuis Bamako. Alexis, quelle option s'offre aujourd'hui à Seydou Dalein Diallo ou aux autres opposants qui ne sont pas satisfaits de ce fichier électoral? Or, l'élection est prévue le 18 octobre prochain.
Oui, si vous avez suivi en Guinée, tout porte à croire que depuis un certain temps, le président Alpha Condé essaie de tout tailler à sa mesure. Vous avez vu d'abord le débat autour de la nouvelle constitution qu'il a fait passer en force. Vous avez vu le débat autour du fichier électoral avec toutes ces anomalies par région où subitement on trouve dans ces fiefs plus d'électeurs que d'habitants. Je pense que le salut de l'opposition en Guinée serait dans un premier temps vraiment dans une vraie coalition et même au-delà de ne pas participer aux élections. C'est-à-dire si le président Alpha Condé, parce que le jeu n'est ni ouvert ni clair, si le président Alpha Condé se retrouve seul, il sera obligé soit de parler avec tout le monde et de revenir, soit de faire un passage en force et de n'avoir aucun crédit par rapport à ça. Mais
le boycott serait, selon vous, la solution pour l'opposition.
Parce que le jeu n'est pas clair, n'est pas ouvert, n'est pas transparent.
Monsieur le ministre Touré, que vous inspire cette actualité guinéenne?
Vous me permettrez de ne pas commenter l'actualité d'un pays frère.
Mais qui ressemble fortement à la vôtre, à l'actualité de votre pays.
Il n'y a pas de comparaison qui vaille entre ces deux actualités. Chaque pays a son vécu, chaque pays a ses réalités. Et donc, je pense que les choses doivent être prises et appréciées différemment.
Azoka?
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère Alexis qui parle de boycott. On a vu que le plus souvent, quand il y a un boycott, ça profite aux partis. Au pouvoir, ça profite au président qui est là en place. Jusqu'au 7-8 septembre dernier, le président Alpha Condé, le camp présidentiel, se disait ben, « tout est fait, on va aller et puis on va gagner la main haute l'élection présidentielle ». Mais dès qu'on a vu la candidature de Seydou Dalein Diallo, la donne a changé, les cartes ont été rabattues. Je pense que quelque part, la chaise vide ne paie pas. Parce que si vous regardez le contexte politique guinéen, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations, qui...
Alors, Azoka, parlons un peu justement de la tournure que prend la campagne électorale. On parle de propos de plus en plus guerriers, que ce soit du côté du président Alpha Condé ou de son opposant ou de l'opposant Seydou Dalein Diallo. Seydou Dalein Diallo qui a d'ailleurs accusé le président Alpha Condé d'instrumentaliser les divisions ethniques. Est-ce qu'il faut avoir peur que cette élection ne se joue sur le point de l'ethnicisation? Est-ce que ce sont des craintes que vous avez?
Oui, il y a une grande peur aujourd'hui, il y a des craintes parce que dès le lancement de la campagne, et nous l'avons tous suivi, le président Alpha Condé a fait une sortie qui a été condamnée et qui continue à faire polémique aujourd'hui lorsque, en s'adressant à ses militants à Cancan, et son fief, il dit, si vous votez pour Seydou Dalein Diallo, ou si vous votez un autre candidat de son ethnie qui n'est pas du RPG, c'est comme si vous votiez pour Seydou Dalein Diallo, parce que au Fouta, il constate qu'il y a eu que le Fouta, selon ce qu'il a dit, n'a présenté qu'un seul candidat, qui est Seydou. Il y a 11, les 11 candidats qui sont retrouvés en coalition, qui se disent qu'ils sont contre lui. Donc, il y a eu une instrumentalisation, il faut oser le dire.
Mais alors, les organismes qui régissent la campagne électorale ont-elles réagi?
Ben, pour le moment, à ma connaissance, la Haute Autorité de la Communication qui a fait une directive de plus d'une soixantaine d'articles, justement, la Haute Autorité de la Communication interdit le propos à caractère ethnocentrique, racial, tribal, qui demande aux médias d'être équitables dans le traitement de l'information. Jusque-là, on n'a pas encore entendu la Haute Autorité de la Communication, parce que c'est elle qui régule les médias, surtout en période électorale, qui donne un temps d'antenne équitable à tous les candidats pour avoir accès aux médias de services publics. Il y a un journal de campagne qui passe à partir de 21h sur la radio nationale. Il y a des pages qui sont offertes dans les médias de services publics et à l'Agence guinéenne de presse. Mais jusque-là, les voix ne sont élevées qu'au niveau de la société civile. Beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des avocats, se sont insurgés.
On a appris que le FNDC a notamment écrit à la procureure de la CPI pour signaler les premières déclarations de campagne du président sortant Alpha Condé. Merci beaucoup, Azoka. Nous allons devoir avancer sur le troisième sujet de ce débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et le troisième sujet, c'est le Mali. Le nouveau président de transition, Badaou, j'espère que je ne l'écorche pas trop, a prêté serment en même temps que le vice-président Assimi Goïta. Mais cela n'est pas suffisant pour la CEDEAO qui a maintenu ses sanctions, se refusant de se contenter de l'investiture d'un président de transition et la CEDEAO qui insiste notamment sur la nomination urgente d'un premier ministre civil. Alexis Calambri, votre réaction sur le maintien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali?
Non, mais ça se comprend parce que d'abord le coup d'État a eu lieu il y a plus d'un mois. On traîne à mettre les organes parce que visiblement, les militaires voulaient avoir la même mise sur l'ensemble des organes. Ensuite, de discussion en discussion, on a quand même concédé que la transition dure 18 mois au lieu de un an comme la CEDEAO l'exigeait. Mais depuis, on a dit premier ministre civil, président civil, ils ont réussi à mettre en place un président militaire à la retraite que la CEDEAO a accepté avec un vice-président qui n'est pas prévu dans la constitution malienne. Mais la CEDEAO reste prudente en disant on lèvera les sanctions quand on verra un premier ministre civil. Et je pense que c'est normal, c'est de bonne guerre.
C'est une stratégie pour maintenir la pression, selon vous, pour la nomination de ce premier ministre civil?
Oui, je suis sûr que s'il n'y avait pas cette pression, on aurait tous les organes occupés par les militaires. Donc, c'est normal que la CEDEAO maintienne cette pression, cette épée de Damoclès sur leur tête, de sorte qu'on puisse avoir un gouvernement civil. C'est le peuple qui trinque. Hein. C'est très difficile ici au Mali, les sanctions, les effets se font déjà sentir à plusieurs niveaux.
Mais justement, parce que les effets de ces sanctions commencent à se faire sentir durement par le peuple, est-ce que la CEDEAO n'aurait pas pu faire amende honorable vu que les militaires ont concédé ce président de transition civile, on va dire, puisqu'il est à la retraite?
Mais justement, on peut retourner la question dans l'autre sens, puisqu'on a pu nommer un président civil, pourquoi ça traîne la mise en place d'un premier ministre?
On peut se poser la question, effectivement, vous avez raison. Et alors, quelle va être la feuille de route de ce nouveau président de la transition, ce général à la retraite? Qu'est-ce qui est attendu de lui, on va dire, immédiatement?
Alors, dans son discours d'investiture aujourd'hui, il a mis l'accent sur la lutte contre l'insécurité et le séparatisme. Vous savez que la moitié du pays est occupée par les djihadistes, une partie par les irrédentistes. Donc, il s'est dit engagé dans la lutte pour recouvrer disons, pour mettre l'autorité de Bamako sur l'ensemble du territoire. Il a également dit qu'il va s'atteler à la refondation du pays. Et dans le cadre de, disons, la junte avait déjà élaboré avec les populations ce qu'on a appelé une charte de la transition qui met l'accent sur, effectivement, la refondation qui passe par la relecture de la Constitution et des textes organiques et un peu également la lutte contre la corruption. Donc ça, c'est les grandes lignes de la charte et de la mission du comité de transition.
Monsieur le ministre Touré, la CEDEAO fait-elle bien de maintenir la pression sur le Mali?
Nous suivons avec un grand intérêt la situation au Mali. Vous comprendrez que, en tant que porte-parole du gouvernement, nous ne pouvons que être solidaires de la décision de la CEDEAO.
Vous êtes, on va dire, très prudent sur l'actualité des autres pays, et je le comprends vu votre fonction également. Azoka Ba.
Oui, je suis là à l'écoute. Moi, je comprends très bien ce que la CEDEAO est en train de faire parce que on a vu ces militaires, ces putschistes, il faut les appeler par leur nom, ils avaient tendance à vouloir s'accrocher au pouvoir, ils ont tergiversé.
Ils ont fait des concessions également. Ouais, il y a eu des concessions de leur part.
S'il n'y avait pas eu cette pression de la CEDEAO, je suis persuadé que ces militaires qu'on a applaudis au départ allaient essayer de s'accrocher. Et qui sait encore, parce que prendre un militaire à la retraite, redevenir civil, le mettre comme président de la transition, ça veut dire que ces jeunes militaires, ils savent ce qu'ils font. Ils auront toujours un regard, un œil sur ce président. Et puis, un vice-président, M. Alexis, a l'a rappelé, qui ne figure pas dans la Constitution malienne, comment ça va donner, comment cette mayonnaise, qu'est-ce que ça va donner, où nous allons attendre de voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a énuméré la feuille de route, mais nous attendons à ce que ce président de la transition nomme quand même un premier ministre qui ne sera pas un militaire redevenu civil, qui va être premier ministre.
Vous pensez qu'on pourrait avoir un premier ministre ancien militaire également? C'est ce que vous craignez?
Oui, allez. Parce qu'on a vu, on a un président de la transition qui était militaire, qui est devenu civil, la retraite. On espère qu'on aura cette fois-ci un premier ministre qui pourrait être issu de ces mouvements qui ont mené cette contestation contre IBK.
Le M5.
Je pense que ça, il faut obligatoirement que ce premier ministre vienne de leurs rangs, parce que si on regarde, les militaires ont déjà la vice-présidence. Et ils ont à moitié la présidence, puisque c'est un de leurs qui est redevenu civil, qui est aussi à la présidence. Ça, c'est un aspect. Parce que le Mali, il l'a rappelé, c'est aussi la moitié du pays qui est aujourd'hui occupé. Il y a une crise
sécuritaire
qui est là.
Merci beaucoup, Azoka. Merci, Azoka. Nous allons écouter ce que les auditeurs ont pensé des trois sujets que nous avons évoqués dans ce débat.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Côte d'Ivoire, Sangaré Albert demande à notre invité pourquoi le pouvoir refuse jusque-là d'appliquer les recommandations des instances internationales telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Union européenne alors que ces mêmes instances ont pris des positions favorables au régime actuel par le passé. Didos Didier Afodo lui demande à notre invité s'il ne craint pas que le président Ouattara parte de la même manière qu'il est venu au pouvoir vu les tensions actuelles. Guinée, pour Charles Bazema, le simple fait que la CEDEAO ait accepté d'auditer le fichier électoral, c'est une caution au troisième mandat d'Alpha Condé. Sur la question du Mali, notre internaute estime que la priorité de la transition doit être la réconciliation de tous les Maliens. Merci à Aou Ibrahima qui nous a rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa. Africa Radio et sur Twitter à @debatbbcafrica. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci beaucoup Didier. C'était les avis et les questions des auditeurs compilés et présentés par Didier Ladislas Landon. Monsieur le ministre Sidi Tiemoko Touré, deux questions vous ont été posées.
Oui, sur les avis de la Cour africaine et de l'Union européenne, relativement à l'Union européenne, j'aimerais juste relever que l'Union européenne, je l'ai dit au cours d'une intervention précédente, l'Union européenne n'a fait que reprendre les avis, enfoncer une porte déjà ouverte du point de vue du gouvernement ivoirien. Et parce que l'Union européenne, d'ailleurs, s'est engagée à accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation, dans la bonne tenue de ces différentes élections, avec des recommandations, c'est vrai, recommandations qui s'adressent à toute la classe politique ivoirienne. Et pour certaines de ces requêtes, nous avons pris des initiatives dont le représentant spécial de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est très bien informé. Donc pour nous, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte.
Et sur la deuxième question, alors, ne craignez-vous pas que M. Ouattara parte comme il est arrivé?
Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de démocratie ou bien on est en train de parler de coup de force? Parce que si tant est que les peuples veulent l'exercice de la démocratie, mais laissons la possibilité aux peuples souverains de décider. Parce que le temps des coups d'État, c'est le passé. Nous appelons tous à la démocratisation de notre très chère Afrique. À partir de ce moment, il faut que les uns et les autres acceptent de faire l'exercice du bulletin, l'exercice de passer à travers le processus qui permet au peuple de choisir leurs dirigeants librement.
Merci.
C'est de ça
beaucoup
que nous parlons.
Merci, Monsieur le ministre Sidi Tiemoko Touré, ministre ivoirien de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Vous étiez le grand témoin de ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci également à Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien Mali Tribune. Pardon, Alexis, merci d'avoir intervenu depuis Bamako.
Merci.
Et Azoka Ba, rédacteur en chef de Links FM et administrateur du site d'information www.guinedirect.org. Merci, Azoka.
Merci à vous, merci.
Merci à vous, mesdames et messieurs, pour l'attention et la fidélité. Cette émission a été produite par Didier Ladislas Lando, mise en onde par Abdou Diop. L'émission est disponible également sur nos sites internet et vos avis nous intéressent. Partagez-les sur notre page Facebook. Bonne suite de programme sur BBC Afrique et sur Africa Radio.
55 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements vus d'ici et de là-bas.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Tous les samedis à 10h02, temps universel, rediffusion le dimanche à la même heure.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo.